Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur du Moyen-Âge, au cœur de la guerre de Cent Ans, avec un guide qui porte un étendard, Jeanne d'Arc, et nous partons pour Orléans.
Au cœur de l'histoire.
Jeanne fend le système, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice. Et au fond, que nous dit l'aventure de Jeanne ? Qu'il ne suffit ni d'être aimé des gens, ni de les aimer, mais qu'il faut leur faire confiance.
Vous avez reconnu Emmanuel Macron. Alors qu'il était ministre de l'économie, le 8 mai 2016, il avait décidé de célébrer Jeanne d'Arc, manière pour lui de s'imposer face au Front National qui, depuis des années, célèbre la Pucelle comme le symbole patriotique français. Pourquoi cette volonté des forces politiques de s'emparer de la Pucelle ? Pourquoi ce personnage, sorti du peuple et qui est parvenu à redresser la monarchie française, exerce-t-il une telle fascination chez les républicains ? Eh bien, nous allons replonger dans son histoire pour comprendre comment Jeanne, mystique, et Jeanne, chef de guerre, se sont combinés pour offrir à la France une héroïne. Notre histoire commence au soir du 29 avril 1429. Nous sommes à l'entrée de la ville d'Orléans, une ville qui, depuis 6 mois, est encerclée par les Anglais et est assiégée. Il règne dans la ville une grande inquiétude, une terreur. Pourtant, quelques habitants se sont massés près de l'entrée car ils ont entendu une rumeur. Une rumeur qui circule d'ailleurs très loin en France. Une jeune fille, qui répond au nom de Jeanne d'Arc, devrait arriver dans la ville et devrait les aider à vaincre ce cercle de fer que les Anglais ont posé autour de la cité. Certains gardent l'espoir que cette nouvelle prophétesse puisse les sauver. D'autres, au contraire, sont tombés dans le découragement et se demandent si une reddition ne serait pas le plus simple. Les discussions sont interrompues par l'arrivée d'un convoi. Il est composé de chevaux et de caisses de ravitaillement. Le cortège avance doucement vers la ville. Et au fur et à mesure de sa progression, des torches de plus en plus nombreuses s'allument pour éclairer le personnage en tête du cortège. Comme attiré par cette lumière, le peuple d'Orléans converge vers la tête du convoi. Et à leur grande surprise, ils découvrent enfin une toute jeune femme de 18 ans, au visage serein, vêtue comme un chevalier en armure et juchée sur un grand cheval blanc. Dans sa main droite, cette femme brandit fièrement un étendard de plusieurs mètres de long, décoré de fleurs de lys sur lequel apparaît la mention « Jésus-Maria ». Et chacun se demande qui est cette femme, qui est ce personnage aux traits juvéniles, rassurant, qui est venu leur porter secours. Certains veulent toucher son cheval, comme pour vérifier qu'il ne rêve pas. Jeanne, habile cavalière, évite les uns, évite les autres, dégage son cheval et continue sa progression. Peu à peu, le convoi progresse dans la ville et prend des airs de procession religieuse. Les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde se comporte comme si d'un coup, le Messie était entré dans la ville, comme si des reliques sacrées leur étaient présentées. Des cris de joie résonnent, et soudain, c'est comme une ovation de bonheur qui se dégage de la cité. Comme si, par avance, les habitants d'Orléans avaient deviné que leur peine prendrait fin un jour. Cette entrée solennelle dans Orléans est celle de Jeanne d'Arc, dont tous avaient entendu parler. Mais comment est-il possible qu'une telle guerrière puisse à ce point soulever l'enthousiasme alors même qu'elle n'a accompli aucun miracle ? Pour comprendre cette question, il faut revenir sur l'itinéraire même de Jeanne d'Arc et sur la situation du royaume de France qui explique pourquoi un tel enthousiasme s'est déchaîné à la seule vue de celle dont on pensait qu'elle pourrait être une libératrice. Jeanne est née en 1412 dans un petit village aux confins de la Lorraine et de la Champagne, le village de Domrémy. C'est là que sa mère Isabelle Romée l'a mis au monde, dans la ferme familiale, une maison que son père Jacques d'Arc entretenait plutôt bien puisqu'il était propriétaire de terres à cultiver et donc était un paysan relativement aisé, une sorte de notable pour son village. La ferme était d'ailleurs située pas très loin de l'église et Jacques d'Arc occupait des fonctions de doyen, c'est-à-dire qu'il réglait les conflits au sein de cette communauté villageoise. Dans la famille de Jeanne d'Arc, il y avait 5 enfants. La petite a très tôt été habituée à effectuer des tâches ménagères. Et cette terre, il faut bien le dire, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, est un peu particulière. La guerre de Cent Ans, vous vous souvenez, c'est ce conflit entre la France et l'Angleterre, conflit de succession, qui a commencé au XIVe siècle et qui continue de se poursuivre en ce début de XVe siècle, avec une acuité particulièrement violente. Les Anglais ont réussi à pénétrer en France après 1415 et même, ils ont obtenu par le traité de Troyes l'unification des deux monarchies, la française et l'anglaise, si bien que, à mesure que Jeanne d'Arc grandit, c'est un roi d'Angleterre qui se réclame aussi roi de France. Il s'appelle Henri VI. En 1428, le conflit entre partisans des Anglais et partisans de l'indépendance française a eu même des résonances dans le village de Domrémy. Une bande adverse, une bande qui appartenait au duc de Bourgogne, est venue saccager Domrémy. Domrémy qui était, lui, resté partisan de l'indépendance de la France derrière celui que l'on qualifiait tantôt de roi, tantôt de dauphin, nous y reviendrons, derrière Charles, Charles le septième du nom. Eh bien, Jeanne a vu. Elle a vu l'affrontement, elle a vu la mort, car le petit village de Domrémy, il faut bien le préciser, est une enclave favorable à Charles dans une région très favorable au duc de Bourgogne et donc plutôt du côté des Anglais. Voilà la situation au moment où la jeune Jeanne va se sentir comme appelée. Elle le dira quelque temps plus tard, lors de son procès, elle expliquera qu'elle s'est sentie appelée par des voix qui lui disaient de partir, retrouver le roi, le dauphin Charles, afin d'accomplir une mission divine.
La voix parlait-elle souvent ?
2 ou 3 fois par semaine, elle m'exhortait à partir pour la France. Elle me disait que je ferais lever le siège d'Orléans et que je libérerais le royaume de France des Anglais.
Que disait-elle encore ?
Elle me disait d'aller trouver Robert de Baudricourt, capitaine, et qu'il me donnerait des gens pour cheminer avec moi, car j'étais pauvre fille, ne sachant ni chevaucher ni mener guerre.
Ce sont donc ces voix qui vont pousser Jeanne à quitter sa Lorraine natale et à partir pour essayer de rencontrer le souverain, partisan de l'indépendance nationale, qu'elle va retrouver un beau jour de février 1429 à Chinon. Le 24 février 1429, donc, Jeanne d'Arc, accompagnée d'une toute petite escorte, arrive à Chinon sur les bords de la Loire. Avec ce petit équipage, elle a parcouru pas moins de 600 km. Et c'est dans cette ville de Chinon que, depuis 2 ans, s'est réfugié l'héritier, le dépositaire de la couronne de France, Charles. Il a été petit à petit contraint à abandonner la plupart de son royaume. Paris ne lui appartient pas. Elle est favorable aux Anglais et au duc de Bourgogne. C'est dans ce contexte que Jeanne demande à être reçue. Dans un premier temps, le roi la laisse patienter, puis, après 2 jours, il accepte de lui donner une audience. La scène a peut-être été imaginée par la suite, mais peut-être est-elle tout simplement la révélation du fond de ce que signifie la rencontre entre Jeanne d'Arc et le futur Charles VII. Le roi se serait caché parmi les courtisans, et pourtant, la pucelle l'aurait reconnu entre tous. Il y a bien évidemment, dans cette scène un peu mythologique, un échange de légitimité. D'un côté, le roi reconnaît la jeune fille, donc lui donne en quelque sorte un statut de prophétesse, un statut officiel, et de l'autre côté, Jeanne représente le peuple qui reconnaît tout d'un coup son souverain, le peuple qui admet qu'il n'y a qu'un roi en France et que ce roi est Charles. Voici ce que lui aurait dit alors Jeanne d'Arc, tout juste reconnue par le roi.
« Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux, par moi, que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims. » Baillez-moi, Jean, pour que je fasse lever le siège d'Orléans et vous mène sacré à Reims. C'est le plaisir de Dieu que nos ennemis, les Anglais, s'en aillent en leur pays.
Jeanne est aussi appelée la Pucelle, car elle revendique sa virginité, comme le faisaient à l'époque les bonnes sœurs qui se mettaient au service de Dieu. Il n'en a pas fallu plus. Après un temps de discussion en tête-à-tête, le visage de Charles VII s'éclaire. Il est désormais convaincu qu'il a face à lui un personnage d'exception. Il décide de donner à la Pucelle des moyens pour aller combattre les Anglais et notamment pour essayer de libérer la ville d'Orléans qui est frappée par un siège extrêmement important. Orléans, c'est un enjeu stratégique majeur car la Loire est une voie de circulation et permet de couper l'alimentation de plusieurs régions. Les troupes anglaises ont donc tout intérêt à prendre cette ville, pas seulement pour ses richesses, mais bien pour son emplacement stratégique central. Rappelons que les Britanniques occupent le sud-ouest, occupent la Normandie, occupent bien sûr la forteresse de Calais et une grande partie de la Champagne. Gagner Orléans est un atout majeur. Jeanne d'Arc est donc chargée de mener une action militaire décisive pour les partisans de Charles. Afin de se donner toutes ses chances, elle fait d'abord confectionner une armure, comme en portent les chevaliers à cette époque. Elle fait ensuite fabriquer un étendard qui deviendra son emblème, mais tout cela ne suffit pas. Jeanne a besoin d'avoir des conseillers, d'avoir ce qu'on appelle une maison militaire. Elle va donc avoir quelques personnalités appuyées par le roi qui vont venir se joindre à son entourage. C'est ainsi que Jean d'Aulon, par exemple, un des solides écuyers du roi, d'une quarantaine d'années, se joint à son équipe. Il s'occupera de son éducation militaire. Et puis, encore deux héros d'armes, spécialisés dans la guerre et la politique, viennent à ses côtés. Et enfin, deux clercs, deux ecclésiastiques, vont être chargés de tenir les offices et de garder haute la dignité religieuse de la Pucelle. Avec ce petit groupe, maintenant, les préparatifs de la Pucelle sont achevés. Elle se trouve alors à Blois et c'est là qu'elle apprend qu'elle est nommée à la tête de l'armée royale. Elle va devoir commander 4000 hommes. C'est un convoi militaire semblable à aucun autre qui doit porter secours à Orléans. C'est un fait exceptionnel. Car d'habitude, en France, aucune femme ne participe à la guerre. Il y a eu quelques cas d'exception. Lors de rébellions, parfois, une femme s'est portée à la tête des troupes et a participé au combat. Mais la plupart du temps, elles ne tiennent qu'un rôle d'épouse, de compagne pour les combattants. Ou pire, elles sont les victimes des atrocités de la guerre. Voir une femme se placer à la tête d'une armée est exceptionnel pour l'époque. Alors imaginez la réaction des chefs de l'armée royale quand en avril 1429, ils voient arriver une jeune fille en armure de capitaine qui prétend libérer Orléans. D'abord, certains la tournent en dérision. Puis peu à peu, certains se rallient à elle. Ils sont séduits par son énergie, son enthousiasme. Étienne de Vignoles, par exemple, Poteau de Saint-Trailles, le duc d'Orléans, tous voient en Jeanne une sorte de messie, de prophétesse, qui parvient à forcer leur loyauté et leur sympathie et qui, par ailleurs, s'attire un respect étonnant de la part des soldats. Car la jeune femme a le contact facile et n'hésite pas à taper sur l'épaule de ses interlocuteurs pour faire connaissance. Jeanne devient très rapidement populaire. La soutenir dans son combat devient donc une sorte d'évidence. Commence alors, le 29 avril 1429, après cette entrée solennelle que nous avons vue, véritablement la tentative pour briser le siège d'Orléans. Les Anglais sont prévenus. Dès le 22 mars d'ailleurs, 1429, Jeanne leur a écrit une lettre pour leur dire qu'il ferait mieux de céder.
Je suis chef de guerre et en quelques lieux que j'attendrai vos gens en France, je les en ferai aller, qu'ils le veuillent ou non. Et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous auxir. Je suis ici envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous chasser hors de toute la France. Et s'ils veulent obéir, je les prendrai en miséricorde. Et n'ayez point une autre opinion, car vous ne tiendrez point le royaume de France de Dieu, le roi du ciel, fils de Sainte Marie, mais le tiendra le roi Charles, vrai héritier. Car Dieu, le roi du ciel, le veut, et cela est révélé par la Pucelle, laquelle entrera à Paris en bonne compagnie.
Mais les Anglais ont réagi par l'intermédiaire d'un de leurs chefs, l'un de leurs responsables du siège, qui s'appelle Glasdel, et qui, en fait, traite Jeanne d'Arc de putain des Armagnacs. En somme, il ne reconnaît absolument pas la dimension divine de la Pucelle. Si bien que Jeanne va avoir un double rôle. D'abord, elle maintient le moral des Orléanais afin qu'ils résistent et qu'ils soient disposés à mener le combat. Ensuite, elle va essayer de stimuler le commandement français, à la fois pour essayer d'aller chercher des armées de secours, c'est ce que va faire Dunois en se rendant à Blois pour chercher de nouveaux renforts, et ensuite pour coordonner l'offensive contre les Anglais. Et c'est ainsi, en quelques jours, que plusieurs des forts que les Anglais avaient construits autour d'Orléans pour maintenir le siège sont pris d'assaut et sont emportés par les Français. Le 8 mai 1429, les Anglais capitulent, Orléans est sauvée. Elle a accompli une sorte d'exploit militaire, mais surtout, elle a écrit le premier chapitre de son épopée mystique. Et personne ne s'y trompe. Dès cette époque, une des principales partisanes de Charles, la poétesse Christine de Pisan, écrit un poème pour louer la pucelle qu'elle qualifie de signe célestiel, un signe envoyé par les cieux pour montrer à quel point le royaume de France est béni par les dieux.
Et devant elle vont fuyant les ennemis. Jamais force ne fut si grande qu'on soit 10, 100 ou 1000. De tous nos gens preux et habiles, c'est elle la principale cheftaine. Telle force n'ont eu Hector ni Achille, mais tout se fait Dieu qui l'amène.
Il y a donc une mystique Jeanne d'Arc qui s'installe dès cette époque et dès l'été 1429. Celle qui se revendique comme le chef de guerre est surnommée la chevetaine par les membres de l'armée mais aussi par le peuple. Parfois, dans les documents, on lui trouve même le nom de Dux. Dux, le chef de guerre. C'est dire que son aura a grandi aux yeux de tous. Le 2 juin 1429, le roi Charles VII reconnaît publiquement ses prouesses. Il lui concède des armoiries pour son étendard, c'est-à-dire un blason qui représente sa foi et sa vertu militaire. D'après les archives de l'époque, l'étendard de Jeanne d'Arc est doté de 2 fleurs de lys, d'une épée d'argent à la poignée d'or, au bout de laquelle se trouve une couronne d'or. La couronne, c'est un symbole capital. La fleur de lys, elle, représente la virginité et la royauté. Et l'épée montre que le roi compte Jeanne d'Arc comme soutien militaire pour le royaume de France. C'est une distinction tout à fait unique qu'obtient Jeanne en son temps. Mais la couronne, c'est aussi le symbole de cette royauté qui n'est pas encore advenue. Pour Jeanne d'Arc, il faut que Charles VII se fasse sacré suivant la tradition royale. Ainsi, sa légitimité sera pleine et constatée aux yeux de tous. Mais où sacrer le roi ? La ville de Reims n'est pas aux mains des Français. Elle est aux mains des Anglais, comme de nombreuses cités de l'Est de la France. Comment faire ? Charles décide pourtant d'écouter la pucelle et de lancer une nouvelle campagne militaire. C'est sous cette impulsion que les villes d'Auxerre, de Troyes, de Châlons sont libérées. Et enfin, le 17 juillet 1429, le dauphin peut faire son entrée dans la cathédrale de Reims. Charles subit le cérémonial traditionnel des rois de France. Il reçoit l'onction avec le Saint-Crème, cette huile miraculeuse apportée par le Saint-Esprit et réservée au souverain. Sa poitrine, sa tête, ses mains, son dos sont recouverts de cette huile miraculeuse. Le moment est solennel. Jeanne est à ses côtés et porte son étendard sur lequel figure Jésus-Christ et la mention Jésus-Maria. Charles est sacré par l'archevêque de Chartres. Il est désormais pleinement roi et au sortir de l'église, il peut même faire le traditionnel toucher des écrouelles. Charles n'est plus le gentil dauphin dont parlait Jeanne quelques mois auparavant, alors qu'elle venait de le rencontrer. Il est désormais pleinement le roi Charles, 7e du nom. Jeanne peut-elle alors continuer sa fabuleuse épopée ? Ou a-t-elle accompli sa mission ? Pour Jeanne, l'essentiel reste à faire. Et l'essentiel, c'est le combat contre l'Anglais. Pour Charles, en revanche, les finances du royaume sont au plus bas. Et il a du mal à trouver de nouvelles troupes. Il souhaite donc avoir une sorte de pause dans la marche au combat, impulsée par le Dux Jeanne d'Arc. Impatiente et impulsive, Jeanne obtient quand même de pouvoir se lancer à la conquête de Paris. Si Paris était libéré, eh bien Jeanne offrirait la plus grande ville du royaume à son souverain. L'offensive est lancée, mais les partisans de Charles sont en infériorité numérique. Paris est une ville favorable au duc de Bourgogne. Elle a aussi une garnison anglaise. Elle résiste donc. Le 8 septembre 1429, pire, au cours de l'assaut, Jeanne est blessée à la cuisse. Elle ne parvient pas à faire ouvrir la porte du Louvre et à gagner le cœur de la capitale. Cette fois, aucun miracle ne s'est produit. Le roi décide donc de lever le siège de Paris et de dissoudre provisoirement son armée. Il veut tenter de négocier, voir s'il peut obtenir un répit et qui sait, peut-être restaurer ses finances. La Pucelle, elle, regarde cette action avec dédain et presque dépit. Lassée par la pression constante de la Pucelle, Charles décide de l'éloigner en lui disant d'aller libérer une autre ville, un peu plus loin, Compiègne. Mais Charles n'a plus d'armée. Il laisse donc Jeanne se charger seule d'en recruter une, de trouver des chevaliers fidèles et de recruter quelques mercenaires pour pouvoir accomplir cette opération. En fait, Jeanne croit que le roi va lui envoyer des renforts une fois que l'action militaire sera engagée. Mais le 24 mai 1430, Jeanne d'Arc, alors qu'elle est au combat, est séparée de ses troupes. Elle se retrouve désorientée au cours d'une contre-attaque des Bourguignons. Pour la première fois, elle est jetée hors de son cheval et capturée. Ses chefs bourguignons ne vont pas tarder à la vendre aux Anglais qui avaient mis sa tête à prix. À partir de là, commence pour Jeanne une descente aux enfers, alors même que le roi Charles VII ne fait pratiquement rien pour la libérer. Elle fait l'objet d'un procès qui commence le 21 février 1431 et se terminera le 23 mai de la même année. Dans ces trois mois, on lui reproche essentiellement d'avoir porté des habits masculins et donc de s'être comportée non pas comme une femme normale, mais comme une femme suppôt de Satan, endiablée pourrait-on dire, de s'être comportée en hérétique. Jeanne essaye d'objecter que son comportement était simplement celui d'une combattante, d'une patriote, mais rien n'y fait. Son statut tant réclamé de chef de guerre ne peut pas la protéger au moment où on la juge pour des questions spirituelles. Elle est donc condamnée pour avoir persévéré dans son hérésie, pour avoir voulu se hisser au-dessus du peuple comme par une diablerie. Et ainsi, elle doit monter sur le bûcher le 30 mai 1431 pour y être brûlée vive. L'exécution de Jeanne d'Arc n'empêche pas sa mythologie de se développer et très rapidement Charles VII va réclamer la béatification de la Pucelle d'Orléans. Aujourd'hui, Jeanne continue de déchaîner les passions et l'intérêt. Bien sûr, la fête de Jeanne d'Arc n'a pas été la grande fête nationale que rêvaient les catholiques à la fin du XIXe siècle quand ils pensaient que ce moment pourrait être une alternative au 14 juillet républicain. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, la sainte avait tellement servi à galvaniser la volonté française dans la lutte pour le premier conflit qu'elle est devenue une sorte de sainte républicaine. Le 8 mai, à partir de 1920, a fait l'objet d'une célébration à laquelle se rendaient des chefs d'État et de gouvernement. Bientôt, la droite, l'extrême droite et la gauche ont essayé de s'emparer de cette figure populaire, les uns en valorisant sa dimension chrétienne, les autres en soulignant son apport populaire, tous en fait essayant de voir en elle un modèle de comportement pour l'avenir. Jeanne reste donc aujourd'hui une référence. Elle peut même devenir un modèle pour les féministes qui voient dans ce passé lointain l'expression d'une volonté des femmes de participer à la vie de la cité et à leur tour de la défendre quand elle est menacée. Au-delà de toutes ces instrumentalisations, Jeanne a fasciné le monde entier, car cette femme seule, toute jeune, installée à la périphérie de la France, partie de rien, a réussi à changer l'histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.